Donc bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde et cette projection Agir contre la pollution plastique qui est organisée par Plastic Odyssey. Donc vous les repérez un peu partout avec leurs beaux petits t-shirts. Ils sont venus en équipe, c'est bien. Et l'association Un Prétexte que je représente. Donc moi je suis Hugo Gattuso, je suis modérateur pour cette soirée. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas l'association Un Prétexte, on lutte pour la diffusion des savoirs et des sciences et entre vraiment tous les pans de la société, principalement pour les citoyens. Et donc le but, c'est de lutter contre la désinformation, les fake news, le rejet des experts, et on propose des espaces un peu sympas où on peut échanger librement et parler de sujets scientifiques, environnementaux et sociaux. Donc je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de petits flyers de l'association Un Prétexte à l'entrée là-bas. Et ce sont les événements qu'on propose sur les 72 heures de l'écologie. Voilà, je me permets de faire un peu d'auto-promo, c'est bien. Vous devez savoir que les échanges ils seront enregistrés ce soir. Donc moi, je suis animateur dans une émission qui s'appelle La Forêt des Possibles, qu'on retrouve sur Radio Galère. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un plateau radio? Eh bien, il faut savoir qu'en général, quand on est enregistré, on dit un peu moins de conneries. Et si on dit des conneries, eh bien, ça entre dans la postérité, et ça, c'est pas mal. Vous pourrez retrouver l'émission sur toutes les plateformes. On vous partagera les liens à la suite, peut-être la semaine prochaine, dans un mail un peu récapitulatif. Et comme nous, on dit dans l'émission La Forêt des Possibles, Marseille, c'est le terreau fertile qui fait pousser des initiatives, des projets et des engagements pour les transitions écologiques et sociales. Seuls, ces projets seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Alors justement, afin de parler de ce terreau fertile, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Rubirola, qui est ici. Oui, c'est à vous. Qui est premier adjoint de la ville de Marseille. Merci.
Ben bonjour à toutes et tous, et je suis ravie de vous voir aussi nombreux dans cette salle pour célébrer le retour de Plastic Odyssey. Après 3 ans d'expédition, donc on est heureux de les retrouver parmi nous. Pour célébrer aussi les actions de notre tissu associatif local, celle de Septentrion, qui a alerté sur l'incendie sous-marin de 2022, et celle de Team Oxygène, qui allie soin de soi, soin de la mer et action de dépollution. Alors, prendre soin de la santé de la mer et des océans, ce n'est pas une priorité. C'est une nécessité pour nos écosystèmes, pour nous humains et pour toutes les espèces qui y vivent. Alors, tout à l'heure, en venant, je demandais à quelqu'un qui était avec moi s'il savait combien représentait le poids du plastique dans le monde. Est-ce que vous le savez? Est-ce que quelqu'un a une idée? Bon, je dois vous dire que moi, ça m'a surpris aussi. Le poids du plastique dans le monde est aujourd'hui supérieur au poids de tous les animaux réunis. Et on le retrouve partout, dans la chair des poissons, dans les neiges de l'Himalaya, et puis dans le cerveau de nos enfants. Donc la ville de Marseille s'est résolument engagée dans l'action Une seule santé. Il y a la mission Une seule santé qui a été créée en juillet 2024. Et la petite équipe qui est en charge de cette mission grossit petit à petit, parce que le travail est énorme. Alors, il nous tenait à cœur de répondre à l'appel de Plastic Odyssey pour organiser ce débat. Comme l'action de Plastic Odyssey, cet événement a une portée internationale. Il marque le lancement du One Health Festival à Marseille, qui fait suite au sommet présidentiel qui a été organisé à Lyon pendant le week-end pascal, où Marseille était très bien représentée. Merci aux équipes d'avoir passé le week-end pascal à Lyon pour échanger sur les bonnes pratiques, sur ce qui se faisait, sur comment on pouvait s'inspirer de l'action des autres villes pour pouvoir lutter contre tous ces problèmes que représente finalement l'action Une seule santé. Et c'est vrai que quand on a parlé des actions menées par la ville de Marseille, beaucoup de gens nous ont dit que les actions étaient inspirantes. Donc encore un grand merci pour l'équipe, la mission Une seule santé, pour mettre en place toutes les actions au niveau de la ville. Donc j'espère qu'on va ressortir de ce moment avec de l'inspiration, de l'envie et surtout de l'énergie pour continuer à agir collectivement. Et qui sait si Plastic Odyssey a réussi à extraire les 10 millions de plastiques autour de l'atoll Henderson. Peut-être qu'on va réussir ensemble à dépolluer notre littoral. Donc une fois de plus, merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour organiser cette soirée. Merci à nos partenaires, un prétexte et la forêt des peaux aussi pour la modération, Radio Galère pour la diffusion. Merci aux intervenants et encore un grand merci aux équipes de la ville de Marseille, aux représentants aussi du service de la ville de Marseille pour participer à cette soirée. Merci au public présent et je vous souhaite à toutes et tous une belle projection et surtout des échanges féconds. Merci.
Merci Michel. Et pour continuer et finir cette introduction, donc je vais accueillir Alexandre Deschelotte, qui est cofondateur de Plastique Odyssée, qui va nous présenter un peu le sujet de ce soir.
Merci, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est vrai qu'on est venu en force, mais en même temps, c'est qu'un échantillon de l'équipage du Plastique Odyssée. Vous pourrez nous retrouver à partir de la semaine dernière, et donc pour ceux qui ne sont pas encore venus, de demain. Au Mucem, on a le bateau là-bas. C'est très symbolique pour nous parce que on est parti de là il y a 3 ans et demi, quasi jour pour jour. Je crois que c'était le 1er ou le 2 octobre 2022. Moi, j'ai fait mes études à Marseille, à la Marine Marchande. Et juste après, avec un copain de promo, Simon, on s'est lancé dans cette aventure folle qui est devenue une expédition autour du monde et du coup qu'on a voulu lancer depuis ici. Et l'idée maintenant, c'est de revenir et de montrer à tous les Français, en commençant par les Marseillais, tout ce qui s'est fait de mieux dans le monde. On a un peu ce qui nous motive, c'est de mettre en lumière les actions positives pour créer des vocations, créer des changements. Parce que parler du côté négatif, beaucoup le font et on sait le faire aussi, évidemment. Le plastique, c'est dramatique, mais pour changer les comportements et faire émerger des solutions, c'est toujours mieux d'essayer de motiver les gens. Et les motiver, c'est aussi passer par des émotions. Donc, vous verrez le film juste après. Le film, c'est une escale, une des 45 qu'on a fait autour du monde. Donc, c'est une toute petite partie de tout ce qu'on a vécu sur les 3 ans et demi. Mais ça véhicule pas mal de messages, pas mal d'émotions. Donc, on croit beaucoup à la capacité de ces images et de ces efforts mis en image pour pouvoir transformer les gens et changer les sociétés. Et surtout, en fait, ce qu'on a fait pendant ces 3 ans et demi, c'est mettre en lumière les acteurs locaux, les associations, les entreprises qu'on a rencontrées dans ces 45 pays. Et donc, à chacune des escales, le bateau Plastique Odyssée est arrivé. C'était un peu l'excuse pour tout le monde pour venir s'intéresser à la pollution plastique et venir en parler. Et donc, ça attirait énormément tous les acteurs du coin. Et on arrivait à les mettre en lumière comme ça, à travers des conférences de presse. Et en fait, souvent, les intervenants, les officiels des villes venaient nous voir à bord et disaient c'est génial cette solution que vous avez à bord. Il faudrait trop qu'on ait ça dans notre pays. On disait en fait, il y en a un à 3 km et vous ne le connaissez pas, mais il est là pendant l'escale parce que ça, c'est vraiment le faire venir de l'escale qui les rassemblait. Donc, c'est aussi ce qu'on a voulu faire en France. Et donc, on est très heureux de co-organiser cet événement pour pouvoir aussi mettre la lumière sur les acteurs à l'échelle locale, parce que c'est évidemment l'axe que tout se joue. Voilà, donc pour nous, c'est la première des escales en France. On va être sur les routes, j'allais dire, mais les ports de France jusqu'à fin juin. Après cette étape, on sera à Bordeaux, là où moi j'habite maintenant. Et puis ensuite à Nantes, à La Rochelle, au Sable d'Olonne, à Lorient, à Concarneau. J'en oublie, à Saint-Malo et au Havre. Je pense que j'ai quasi tout dit. Donc, si vous voulez nous revoir sur la tournée, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera. Et à partir de demain, fin de matinée, si tout va bien sur le montage, parce qu'il y a une grande partie de l'équipe qui est en train de monter le village qui est adossé au bateau et qui va nous suivre sur toute la tournée. Donc, on vous accueille pour vous dévoiler toutes les solutions qu'on a documentées à travers le monde. Merci beaucoup pour l'organisation de ce temps. J'espère que le film va vous plaire. J'espère aussi que la table ronde va être hyper intéressante. Donc, y a quelques membres de l'équipe et là, il y a Morgane qui a fait tout le tour du monde sur ce bateau, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je lui laisserai la parole sur la table ronde pour vous donner tous les exemples concrets qu'on a pu trouver dans le monde. Merci beaucoup et bonne soirée.
Merci. Alors pour cette super table ronde, on a réuni 5 intervenants. Je vais vous les lister rapidement. Donc on a Julien Gros-Claude et Léa Potier de Team Oxygène, qui sont juste ici. Donc, c'est un club d'apnée éco-engagé qui fait du ramassage de déchets, de la sensibilisation au bord de l'eau et du repérage d'espèces. Vous me dites si j'en oublie. Mais ça, ok. Donc, ils ont un chouette slogan qui a été dit par Madame Rubirola, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la mer. Donc, on fait très facilement le lien avec la mission One Health ici, via ce slogan. On a Anouk Vinatel de la mairie de Marseille, donc c'est la direction cadre de vie. Vatinelle. Oh, pardon. Ouais, erreur. Donc, direction du cadre de vie, pôle intervention et propreté. Donc, tu as des missions de coordination avec la métropole pour la propreté et les déchets, ce qui est quand même un gros défi de travailler avec la métropole. Surtout le ramassage des déchets dans l'espace public et sur les plages, notamment. Morgane Kerdoncuf de Plastique Odyssée. Voilà. On a Adrien Cheminet de Septentrion Environnement. Donc, c'est un institut de recherche et de formation en écologie marine et côtière qui fait un énorme travail de terrain pour étudier les impacts humains sur les écosystèmes côtiers. Alors, je vais chacun vous laisser 5 minutes pour présenter vos actions, pour présenter votre structure. Et on reviendra après à la table ronde. Je vais commencer avec Team Oxygène qui est juste là. Donc, vous pouvez prendre un micro qui est juste ici.
Bon, ah d'accord. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Léa Potier, je fais partie de l'association Team Oxygène. Je suis dans le bureau, enfin je suis secrétaire dans le bureau. Et donc on est une association d'apnéistes autonomes. Donc on a tous un niveau minimal requis pour entrer dans l'association et on se réunit aussi souvent que possible en général, quand ça dépend de la météo, mais globalement une à deux fois par semaine pour des sorties à Marseille, autour de Marseille, dans le parc des Calanques ou sur la Côte Bleue. Enfin, c'est des sorties d'exploration, mais aussi des sorties qui nous permettent de ramasser des déchets autant que possible. En fait, à chaque fois qu'on sort, si on trouve des déchets, on les ramasse. Mais il y a aussi des actions spécifiques de ramassage des déchets. Enfin, il y a quelques actions, notamment en septembre, il y a une opération Sentinelle qui est dédiée vraiment au ramassage des déchets. Et puis ensuite, on peut se greffer à différents projets organisés par d'autres acteurs associatifs ou on peut prêter main forte à d'autres projets puisqu'on peut plonger jusqu'à... En gros, on dépollue jusqu'à 20 mètres. Voilà, et puis on essaye d'éviter au maximum le bateau. On parle de la côte, on nage beaucoup, donc. Et voilà, on est 70 adhérents et on existe depuis 5 ans à peu près. Voilà, je vais passer la parole à Julien qui va compléter peut-être un peu ce que j'ai dit.
Donc moi, c'est Julien, je suis trésorier de la Team Oxygène. Léa a déjà bien balayé qui on était, ce qu'on faisait et ce qui nous tient à cœur. Juste sur le... Donc ça, c'était le volet environnement avec le fait de préserver un maximum ce milieu qu'on aime tellement. Et on a aussi, on essaie de développer une partie plus sensibilisation. Donc sur le projet Sentinelle, par exemple, la dernière version, on a passé un après-midi avec des lycéens. Donc pour leur parler d'environnement et de biodiversité, mais aussi d'engagement, puisqu'au final, c'est ce qu'on est, nous, en tant que sportifs apnéistes, c'est qu'on est engagé et éco-engagé. Et on s'engage aussi au niveau social, plus social, pour faire découvrir notre sport, donc auprès des ados. L'année dernière, on a pu emmener plonger des jeunes qui vivent en foyer du côté de la Pointe Rouge. Et on propose aussi un stage priorité aux femmes, puisque dans le club, on fait en sorte d'avoir autant d'hommes que de femmes. Donc voilà, on essaie d'être un peu global autour de ce prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la mer. L'apnée de sport est devenue un prétexte pour œuvrer sur d'autres domaines. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je passe le micro.
Bonjour, alors Anouk Vatinelle, je suis chef de projet à la ville de Marseille, à la direction du cadre de vie. Cette direction comporte notamment le pôle intervention et propreté. Et je suis effectivement en charge de la coordination ville-métropole sur les sujets de propreté et de déchets. Donc c'est effectivement un sujet qui suscite beaucoup d'émotions à Marseille. Je pense que c'est important de faire un petit point répartition des compétences ville-métropole, puisque c'est souvent la question qu'on nous pose. Donc la métropole a la compétence de gestion des déchets ménagers, donc les déchets qui sont produits par les foyers au quotidien, dans les habitations, voilà. Donc les bacs jaunes, les abris-bacs, les conteneurs qu'on trouve sur la voie publique ou dans les locaux des immeubles, les locaux poubelles. Et la ville de Marseille a la compétence sur les espaces qui relèvent des compétences communales, donc les plages, les parcs, les jardins, les cimetières, les équipements sportifs qui sont gérés par la ville de Marseille. Voilà. Donc, depuis 2024, il y a un service qui a été créé à la direction du cadre de vie qui s'appelle le service tri et réduction des déchets et qui a notamment pour mission de déployer le tri sur tous les espaces de compétences communales. Et ça comprend aussi les bâtiments administratifs, donc les bureaux de la ville de Marseille, etc. Donc c'est quand même un service qui est récent, ça fait un an et demi qu'il existe. Donc il est en train de se structurer, il est en train de s'étoffer en termes aussi de ressources humaines, tout simplement. Au cours de cette année et demie, donc, on a eu des recrutements, des procédures qui ont été mises en place. Et donc petit à petit on se met aussi en conformité réglementaire puisque en tout cas moi quand je suis arrivée à la ville il n'y avait pas forcément le tri partout donc peut-être c'est en train de se déployer, le tri est maintenant possible sur toutes les plages de la ville, donc selon les plages on a soit de la bri-bac soit de la corbeille de tri, ça dépend des contraintes techniques. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Donc ça, c'est pour la mise en conformité réglementaire vis-à-vis aussi des lois AGEC, des lois transition écologique pour une croissance verte. Voilà, on essaye de rentrer dans le cadre. Ça prend forcément un petit peu de temps puisqu'on a plus de 1000 sites qui sont gérés par la ville de Marseille. Donc voilà, il faut un petit peu de temps. Et après, en termes d'actions qui sont menées par la ville de Marseille et donc par ce service tri réduction des déchets, on a notamment un appel à projet qui est depuis 2024, donc il y a eu un en 2024, un en 2025, pour subventionner des associations et des structures qui œuvrent pour la lutte contre les déchets abandonnés. Donc en 2024, on a subventionné 6 associations. En 2025, on a voulu que cet appel à projet rayonne un peu plus et qu'il soit plus connu de l'écosystème local. Donc, on a subventionné 15 associations pour un montant de 230 000 euros, voilà, au total. On a aussi des actions de prévention sur les compétences villes. Donc, dans le kit de rentrée des élèves, on distribue des gourdes à tous les CP. Donc, ça représente plus de 12 000 élèves. C'est une action qui a été menée en 2025 qui va être reconduite en 2026, à la rentrée 2026. Et pour les maternelles, on a également... pour les écoles maternelles labellisées E3D, qui sont engagées dans des démarches éco-responsables, on a distribué effectivement des boîtes de goûter en acier pour sensibiliser aux pratiques de goûter zéro déchet. Donc on a ce type d'action. On renforce aussi la propreté en saison estivale sur les plages qui sont très fréquentées. On a plus de 3 millions de visiteurs par an sur nos plages. Donc c'est énorme. Forcément, ça génère énormément de déchets. Donc d'où le fait de déployer des possibilités de faire le tri sur toutes nos plages. On a plus de fréquences de collecte, plus de fréquences aussi de nettoiement, de propreté, de grappillage. On a des équipes spécialisées pour grappiller sur les rochers, parce que les plages à Marseille, ce n'est pas seulement du sable, c'est aussi beaucoup de rochers, des espaces difficilement accessibles par des machines. Donc on a des agents qui vont vraiment grappiller à la main sur ces espaces difficilement accessibles. Et petite nouveauté qui a été mise en place l'année dernière et qui est reconduite cette année, c'est qu'on a des agents qui vont aussi nettoyer dans le premier mètre de l'eau. Donc ils ont des grandes cuissardes, des épuisettes, et ils vont nettoyer ce premier mètre de l'eau lorsque c'est nécessaire. Donc ça, c'est aussi une première en France, ça n'a jamais été fait, mais voilà, on a jugé que c'était nécessaire. On a également signé 2 chartes, la charte plage zéro plastique et la charte, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, Alexandre, si tu peux m'aider, la charte qui est portée par la région, Zéro déchet plastique, tout simplement. Donc ces chartes, elles ont des critères. La ville s'auto-évalue sur les critères de mise en œuvre de ces chartes. Et ça nous incite, ça nous pousse à aller plus loin, à mettre en œuvre les actions et les critères qui sont recensés sur ces chartes-là. Donc il y a un réel engagement. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui se sont faites. Mais je vais laisser la parole parce que j'ai beaucoup parlé. Désolée.
Vous m'entendez ? Bonsoir à toutes et tous. Donc moi, je m'appelle Morgane Cardoncuff et je me suis occupée d'organiser les escales du navire Plastique Odyssée à travers le monde depuis 3 ans et demi. Et en quelques mots, Plastique Odyssée, donc, c'est ce qu'on fait. Donc on est une expédition maritime. On a quitté Marseille en octobre 2022, il y a 3 ans et demi, pour aller explorer un maximum de solutions face à la pollution plastique. Donc des solutions très concrètes et principalement à terre pour essayer de réduire et de stopper cette hémorragie de plastique qui atteint nos océans chaque seconde, chaque minute. Donc on a un gros bateau, mais on ne fait pas de collecte en mer. Nous, notre action, elle est principalement à terre, avant que le plastique n'atteigne l'océan. Et donc on est parti avec 2 axes de travail principaux. Un axe autour de la réduction, qui est pour nous la priorité numéro 1. Essayer de changer nos modes de vie et trouver des solutions pour vivre en émettant, en consommant, en produisant moins de déchets plastiques. Supprimer toute cette dépendance au plastique à usage unique. Et c'est pas facile, mais des solutions, il en existe et on en a découvertes partout dans le monde. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Le deuxième axe de travail, c'est orienté sur la valorisation des déchets. Donc en 3 ans et demi, nous, on s'est vraiment adressé aux pays où il n'y a pas de système de gestion des déchets, il n'y a pas d'infrastructure publique de gestion des déchets, il n'y a souvent pas de système de collecte. Et donc malheureusement, tous les déchets qui sont émis par la population côtière se retrouvent dans la nature, dans l'environnement, dans des décharges à ciel ouvert et donc in fine dans l'océan. Et donc on a essayé d'explorer des solutions très pragmatiques, très concrètes pour donner de la valeur à ces déchets, développer des filières locales, développer de l'emploi, de la valeur pour les communautés. Et donc, ce bateau, c'est un laboratoire de solutions qu'on partage, qu'on transmet, qu'on améliore aussi au fur et à mesure de nos rencontres. Et donc ça, depuis 3 ans et demi, c'est plus de 200 initiatives qu'on a documentées et puis qu'on continue d'accompagner et avec qui on partage. Et un troisième axe qu'on n'avait pas prévu, en fait, en cours de route, on s'est arrêté avec ce bateau sur des sites qui sont des sites uniques d'un point de vue de la biodiversité. Donc c'est des sites qui sont patrimoine mondial de l'humanité en termes de biodiversité. Et malheureusement, depuis quelques dizaines d'années, depuis qu'on est tombé dans cette dépendance infernale dans le plastique, ces sites qui sont loin de tout et habités uniquement par des oiseaux, des poissons et autres espèces sauvages sont recouverts de plastique. Et donc, en s'arrêtant là, on s'est rendu compte de l'urgence d'agir, de l'urgence de mettre en place des solutions, même si c'est en bout de chaîne et même si c'est un peu un mythe de Sisyphe d'aller collecter encore et encore. Il est urgent de protéger ces endroits dans le monde qui sont des patrimoines et des réserves de biosphère. Et donc, on a lancé un partenariat avec l'UNESCO en cours d'expédition pour devenir un bateau des pollueurs, ambassadeurs, restaurateurs, on peut l'appeler un peu comme on veut, de ces sites de l'UNESCO. Et donc la première mission qu'on a effectuée, c'était en février 2024 sur l'île d'Henderson qui est au milieu du Pacifique. Et c'est l'objet du film qu'on vous présente ce soir.
Merci. Bonjour, moi je suis Adrien Cheminet et donc je fais partie de Septentrion Environnement, qui est une association basée à Marseille depuis une vingtaine d'années. Et donc, nous œuvrons comme institut de recherche et de formation en écologie marine, ici et dans le bassin méditerranéen plus globalement. Donc, nos activités se basent sur une équipe permanente d'une douzaine de personnes, plus un réseau d'adhérents qui participent aussi à nos activités. Alors, un premier volet qui nous occupe, ça va être la science, parce que nous sommes des chercheurs scientifiques, et on s'intéresse à œuvrer pour répondre à des questions de société, notamment quels sont les impacts des activités humaines sur les écosystèmes côtiers. Donc, on va en mer et en particulier sous l'eau, par exemple en plongée sous-marine ou à partir de bateaux, mesurer l'état de santé des peuplements, des populations face aux pressions d'origine humaine. Et un deuxième volet qui va nous intéresser, c'est là où sont mis en œuvre des mesures de conservation, de mesurer, quantifier l'efficacité de ces mesures. Si on met en place une réserve, si on met en place une réduction de pollution, est-ce que ça marche? Parce que finalement, souvent la question en bout de chaîne, c'est de savoir est-ce que les efforts mis en œuvre portent leurs fruits. Et c'est important de les montrer. C'est aussi important de montrer quand ça ne marche pas. Et du coup, pourquoi ça ne marche pas? C'est d'autant plus important que derrière, ce sont souvent des fonds publics, de l'argent public qui est mis en œuvre pour réduire ces problèmes. Et donc, il faut optimiser nos actions. Ça, c'est un volet de nos actions. Un autre volet que nous mettons en œuvre, c'est la partie formation. Donc, il va s'agir de former les futurs professionnels de demain ou les professionnels d'aujourd'hui à nos protocoles scientifiques pour pouvoir faire ce type de travail, donc dans des réserves, dans des parcs nationaux, dans une collectivité, pour finalement mesurer l'état de santé de nos écosystèmes et mettre en place des actions de gestion. Donc nous avons des étudiants, par exemple, à l'université, en BTS, etc., qui donc sont les futurs professionnels de demain. Et donc là, j'en vois dans la salle et je les remercie. Je les remercie pour leur implication, puisqu'en fait, en tant que scientifique, transmettre des compétences, des savoir-faire, c'est aussi recevoir un feedback extrêmement constructif. Et en tant que scientifique, le retour des étudiants, finalement, est toujours très, très, très porteur de renouvellement. Donc, c'est très enrichissant. Et donc, on en parlera. Un des exemples d'action que nous faisons, par exemple, avec ces étudiants, c'est des chantiers écoles sur le terrain, en plongée sous-marine ou autre, pour répondre à des questions, notamment des chantiers de dépollution de sites. Et à l'heure où je vous parle, on a un groupe qui est en mer, avec une partie de l'équipe de Plastic Odyssey aussi, pour retirer des macro-déchets, des pneus en l'occurrence, d'un site qui a été pollué par une décharge de ces macro-déchets sur les fonds marins. Et ça nécessite un travail en amont du chantier, pendant et après, pour mesurer les effets sur le milieu. Et puis pour terminer, peut-être une dernière partie de nos actions se concentre autour de la sensibilisation, notamment via les sciences citoyennes, les sciences participatives, pour pouvoir impliquer un maximum d'acteurs dans cette approche environnementale, que ce soit ici, à Marseille ou ailleurs sur le pourtour méditerranéen.
Merci beaucoup. Alors vous avez pu voir quand même la belle complémentarité de tous ces acteurs qu'on a réunis ce soir. Donc pour démarrer la table ronde, moi je suis un scientifique et j'aime bien les chiffres, donc je vais vous donner quelques chiffres qui sont bien effrayants et qui sont connus de tous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde, on a 11 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans les océans chaque année. Et j'ai fait le calcul, ça fait 21 tonnes par minute. Et à l'échelle de la Méditerranée, c'est comme s'il y avait deux camions poubelles qui étaient déversés toutes les deux minutes dans la mer. Donc ce qui veut dire qu'à ce rythme-là, en 2050, ça je pense qu'il y en a beaucoup de vous qui l'ont déjà entendu ce chiffre, eh ben, on est censé avoir plus de plastique dans les océans que de poissons. Aussi, il faut savoir que ça, c'est un chiffre qui est connu. On est censé consommer 2 cartes bleues par semaine. Alors, quelques grammes, je ne sais pas à quel point c'est juste. Mais ce qui est démontré, en tout cas scientifiquement, c'est que chez des individus occidentaux, 100% des organes de 100% des gens sont consommés par les pollutions plastiques. Donc, on n'est pas très bien parti là. Et il faut savoir aussi que seulement 10% de tout ce plastique est recyclé. Alors bon, là, clairement, il n'est plus question de savoir s'il faut agir ou non. Là, on, je crois qu'on a compris qu'il fallait faire quelque chose. Mais maintenant, la grande question, ça va être de savoir comment on agit et avec qui. Pour commencer, je pense qu'on va être bien chauvin et on va parler de Marseille. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu, à l'échelle de la baie de Marseille et du littoral marseillais, quelles sont les plus grandes problématiques qu'on peut retrouver? Donc, je parle peut-être des personnes qui agissent sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va retrouver qui va être vraiment en priorité une problématique pour les citoyens marseillais? Je vous laisse la parole. peut-être Adrien ou Julien ou Léa.
Je ne comprends pas très bien la question, pardon. La problématique en...
Bah pour les citoyens ou pour la santé des citoyens.
Oui,
ou,
bah, la,
ou
la plus vraie grande... problématique est... pardon, du coup, je te coupe.
Ou les plus grandes décharges ou qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent à Team Oxygène comme, comme déchets plastiques
Bah alors, du coup, en déchets plastiques, on retrouve beaucoup de bouchons, de bouteilles en plastique, des emballages qui flottent entre deux eaux et des fois quand on veut les récupérer en fait ils se délitent. Après là, sur Marseille c'est très changeant suivant les spots où on peut retrouver les déchets, c'est assez changeant suivant les courants ou les vents, forcément suivant la météo. Il existe quand même des spots très jolis côté terre pour l'apéro qui du coup deviennent vachement moins jolis côté mer quand l'apéro est fini et que tout est balancé à l'eau. Donc là, c'est souvent des digues. Je pense par exemple au Catalan, à Corbière. Je pense à la piscine proche du Mucem. Où là, du coup, c'est sûr que c'est des endroits très jolis et agréables à profiter. Mais du coup, là, pour le coup, c'est vraiment, à mon sens, des incivilités. Parce que ce qu'on retrouve dans la mer, ça n'a pas forcément été jeté. Ça peut être un déchet qu'on a mis dans une poubelle et un coup de mistral, il ressort de la poubelle. Ou des fois, on voit des camions bennes sur l'autoroute et si la R s'est pas positionnée correctement ou s'il n'y a pas de filet, on voit les déchets sortir de là où ils ont été mis. Mais après, moi, je suis plus témoin. D'un point de vue scientifique, je pense que c'est plus Septentrion qui aura peut-être des choses à dire, même sûrement là-dessus.
Je pense que ce qui est important de souligner, c'est tu l'as introduit, c'est la diversité des types de macro-déchets qu'on va retrouver. Et donc, derrière, ça veut dire la diversité des types de sources de production de ces macro-déchets. Et tu pourras peut-être nous en dire plus à ce niveau-là. Mais par exemple, on va avoir certains macro-déchets plastiques qui sont effectivement de sources de l'usage du quotidien. Donc, ça se joue à l'échelle du geste individuel. On a aussi certains macro-déchets plastiques qui vont provenir de certaines typologies de production industrielle ou autre, ou de certains types de filières professionnelles ou industrielles. Et donc là, en fait, ça illustre le fait que on a un travail de sensibilisation par secteur à faire. Donc là, si je reprends l'exemple tout à l'heure des pneus dont je parlais, c'est vrai que comment est-ce qu'on se retrouve avec des montagnes de pneus sous l'eau ? En fait, il faut retracer à la source pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un contrôle finalement de la filière de retraitement de ces macro-déchets. On a aussi d'autres peut-être types de déchets un peu moins connus du grand public. Alors, je pensais en particulier à ce qui sera les résidus de filets de pêche qui sont bien involontairement pour les pêcheurs parfois perdus en mer. Donc pour eux, c'est un problème économique. Qui aura aussi une conséquence par une production de certains types de macro-déchets plastiques sous l'eau. Et donc, bien souvent, eux ne sont pas en capacité d'aller retrouver un filet égaré par une tempête. Et donc, ça va faire un travail éventuellement de retrait assez complexe à mettre en œuvre.
Ouais, merci. Moi, je vais rebondir. J'ai une petite anecdote à vous donner sur une conférence que j'ai organisée l'année dernière qui faisait intervenir le directeur du DRASM. Donc c'est le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines qui m'a montré par des images de reproduction en 3D des fonds marins à une vingtaine de kilomètres de Marseille, dans la baie, qu'on retrouvait 90 carcasses de voitures et carrément une carcasse d'un hélicoptère qui attend d'être récupéré au fond de la mer, pas très loin de Marseille. Donc moi, j'aurais voulu avoir une idée de comment est-ce qu'on pourrait aller récupérer ces déchets et combien ça pourrait coûter. Peut-être à Adrien, vu que... C'est le spécialiste du ramassage des pneus, j'ai pu voir.
Alors, effectivement, la question du coût, elle est multiple. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a d'autres personnes pourront répondre à ça. Le coût, il est à réfléchir en couches. On va avoir l'impact que ça a sur l'écosystème, donc d'un déchet qui est laissé sur le fond. Que ce soit une carcasse de véhicule ou un morceau de plastique, etc. il va provoquer, on pourra en parler, des impacts qui vont diminuer finalement les services que nous rendent les écosystèmes. Et donc c'est une perte économique indirecte, puisque l'écosystème est en mauvaise santé, il ne pourra plus nous apporter ses bénéfices. Donc on perd déjà de l'argent, hein, s'il faut parler d'un point de vue des coûts, de ce point de vue-là. Si on cherche à aller le retirer, ça va être un coût également pour la société, qui est du coup, une fois de plus, externalisé. Ce n'est pas le producteur industriel qui va payer le retrait du déchet, c'est bien souvent la collectivité. Et là, un pneu, par exemple, en moyenne, c'est un petit pneu de voiture ou de mobylette, ça va être 100 euros de retirer le pneu. Donc c'est le résultat du calcul qu'on a fait d'une campagne précédente. On avait retiré plusieurs centaines de pneus d'un site sous-marin. En divisant le coût par la quantité de pneus, on arrivait à 100 euros par pneu pour tout le matériel mis en œuvre, les gens, le temps de travail des plongeurs qui sont allés chercher ces macro-déchets, l'allocation du matériel qu'il a fallu mettre en œuvre pour extraire ces macro-déchets, puis les acheminer vers une filière de retraitement, le travail aussi en amont pour faire la cartographie de la zone, etc. Donc, c'est assez représentatif, finalement, pour un pneu qui peut-être valait moins que 100 euros à l'origine, le coût qu'on a eu pour le retirer, quoi.
Et pour rebondir là-dessus, pour justement prendre l'échelle mondiale que Plastic Odyssey peut nous offrir ce soir, tu voulais réagir, pardon ?
Je voulais juste parler des filières, des responsabilités élargies du producteur, parce qu'effectivement, en fait, il existe normalement plusieurs solutions pour le traitement de ces déchets-là. On a les pneus, on a celle très connue des emballages ménagers avec l'éco-organisme Citeo. Normalement, les producteurs et les metteurs sur le marché de ces produits qui ensuite deviennent des déchets doivent prendre en charge le coût de traitement de ces déchets-là. Quand ça devient des dépôts sauvages, illégaux, effectivement, ça devient plus compliqué, et surtout la mise en œuvre opérationnelle de ces filières, elle est aussi complexe, parce que c'est des coûts logistiques et techniques importants. N'empêche qu'il y a quand même un gros travail à mener sur ces filières REP pour les structurer, pour bien les organiser et en fait pour pouvoir s'en saisir, parce que c'est effectivement un coût qui est supporté soit par les associations, soit par les collectivités, alors que normalement c'est les producteurs et les metteurs sur le marché qui doivent prendre en charge ce coût. Donc il y a un gros travail de fond à mener sur la mise en œuvre de ces filières REP et comment s'en saisir. En tout cas, nous, au sein de la ville de Marseille, on est en train d'investiguer ce sujet de manière très importante, parce qu'on est dans un contexte budgétaire de plus en plus restreint. Et donc on est aussi en recherche de performance environnementale, parce que ces filières REP, elles n'ont pas juste comme objectif de se délester des coûts pour les collectivités, mais c'est aussi pour une meilleure valorisation. Au lieu que ces pneus finissent en incinération ou en enfouissement, on peut avoir des solutions de valorisation.
Ok, merci. Tu veux répondre ? Ouais, tu veux réagir ?
Parce qu'il y a un petit ajout, effectivement, sur cette question de responsabilité collective. J'avais envie d'élargir un peu le champ du débat en incluant à l'échelle géographique. Je pense qu'on y reviendra après, mais ici, on est à Marseille. Mais finalement, la courantologie de la mer Méditerranée fait que les masses d'eau qui nous arrivent ici sont issues d'un courant qui fait tout le tour de la Méditerranée. Et donc, en fait, les macro-déchets plastiques et autres finalement circulent de pays en pays. Et donc, on a finalement une solidarité écologique entre régions littorales, entre pays, puisque ce qui nous arrive ici vient majoritairement plutôt de l'Est, mais ce que nous, on met à l'eau ici, part vers l'Ouest, en suivant les courants littoraux. Donc, il y a une vaste question aussi au niveau international à ce niveau-là. Et on a des exemples de pays en Méditerranée où la réglementation est bien appliquée et où finalement les déchets viennent depuis au-delà de leurs frontières et où c'est difficile d'avoir la main dessus en suivant le littoral.
Okay, merci. Et donc pour revenir sur Plastic Odyssey et l'échelle mondiale, quelles sont les grandes problématiques que vous retrouvez ? Est-ce que c'est mieux qu'à Marseille, pire qu'à Marseille ?
En tout cas, je ne sais pas si c'est mieux ou pire. On a vu de la pollution plastique partout. Enfin, c'est clair que le constat, c'est qu'il n'y a pas une zone dans le monde qui n'est pas touchée par cette problématique. Et comme tu le disais très bien, il faut absolument mettre en place une solidarité à l'échelle internationale parce que seul un État ne va jamais s'en sortir. Les déchets voyagent, les déchets circulent. Et donc, il est absolument essentiel qu'à tous les niveaux, les actions soient prises pour endiguer ce flot de déchets qui atteint l'océan à chaque fois. On a vu ce qui est super intéressant dans cette exploration, c'est qu'on a vu aussi des États, tu parlais de la filière REP, des États en train de réfléchir à la mise en place de ce genre de choses, et on a pu être témoin de la création en fait de ce genre de système de pollueur-payeur, et on voit qu'effectivement les pays qui ont réussi à mettre ça en place font lieu de chef de file sur ces sujets-là et vont aller faciliter la mise en œuvre de politiques similaires un peu partout dans le monde. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il y a des pays qui évitent et qui passent à côté de cette pollution plastique. Même les zones désertes qui n'ont rien demandé à personne se retrouvent complètement inondées. Donc, c'est sûr qu'il faut agir à l'échelle globale.
Okay, ouais. Et pour revenir sur Marseille un petit peu et pour rebondir sur l'actualité, donc j'imagine que vous avez vu que la plage de Luvaune elle a été fermée. Donc je demande peut-être à l'audience ou aux intervenants, est-ce que vous connaissez un petit peu le petit nom local de la plage de Luvaune ? Ouais. Donc Épluchure Beach, ouais. C'est pas mal. Donc l'eau est tellement de mauvaise qualité que ça fait 5 années de suite qu'elle est classée comme insuffisante. Et elle a été fermée par la ville de Marseille, je crois. Je crois que c'est la ville de Marseille qui a fermé. Pardon ? Oui, ok. Et donc, à l'échelle de la ville de Marseille, quelles seraient les actions qui vont être mises en place pour la rendre baignable à nouveau ? Ou alors peut-être réagir sur le traitement des déchets qu'on retrouve sur les plages à cet endroit-là ?
Oui, alors du coup, le service tri réduction des déchets ne nettoie pas l'eau de la mer. Mais en revanche, on a des actions correctives sur les déchets qui sont sur les plages. Après, cette plage a été fermée parce que c'est Luvaune qui se déverse dans la mer à ce niveau-là, c'est l'embouchure de Luvaune. Et donc, du coup, on a le syndicat qui a la compétence GEMAPI, les PAJUCA, qui, lui, pour le coup, assure toute la gouvernance et met en œuvre toutes les actions afin, donc avec les communes qui sont situées sur ce bassin versant de Luvaune. Et donc, ils mettent en œuvre des actions de prévention, de correction. Enfin, ils assurent toute cette compétence GEMAPI. Donc, la ville de Marseille est en train de construire des liens avec les PAJUCA. Mais c'est vraiment eux qui portent ces actions-là en termes d'amélioration de la qualité de l'eau. Après, la ville de Marseille intervient plutôt en aval sur le nettoiement de la plage à proprement parler, le sable, la sensibilisation. L'été dernier, sur toute la saison estivale, de mai à septembre, tous les jours, on avait des éco-ambassadeurs qui allaient à la rencontre des gens pour parler justement de l'impact environnemental des déchets abandonnés, pour parler aussi de la pollution des mégots. On avait aussi des stands avec des outils de sensibilisation, des outils de médiation. Mais voilà, ça intervient plutôt en aval. En amont, ce sera plutôt le syndicat de l'EPAJUCA.
Et justement, comme tu as la compétence et que tu travailles avec la métropole, et que forcément, le problème de Luvaune, il se retrouve dans d'autres communes, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais élèves sur le chemin de Luvaune ?
Je ne sais pas.
Alors moi, j'ai une autre question à poser à nos participants. Donc, est-ce que vous savez d'où provient la majorité des plastiques que l'on retrouve sur les côtes méditerranéennes françaises ? J'attends des idées de réponse. Vous n'avez pas envie de répondre ? Alors, la réponse, c'est le Rhône. En fait, tous les affluents du Rhône, qui nous provient de la Suisse, contiennent une quantité de plastique qui est faramineuse. Et alors, en fait, on se rend compte que c'est une problématique qui est globale à l'échelle. Donc là, on prend juste l'échelle de Marseille. Et que ce n'est pas juste nous, entre Marseillais, à faire des actions sur Marseille qui allons régler le problème de la pollution plastique à Marseille et dans la Méditerranée. Et donc, justement, j'ai envie de vous poser la question de quelles actions on peut mener pour peut-être signaler aux autres communes, aux régions et aux départements qui sont plus en amont sur le Rhône pour leur dire que bah justement il faut les sensibiliser à la pollution plastique qui se retrouve jusqu'ici en Méditerranée. Est-ce que vous avez des choses à nous dire là-dessus ? Ou c'est un sujet trop touchy ?
Je pense que une action à laquelle ça me fait penser, c'est le. Par exemple, dans l'enseignement agricole, il y a un réseau des lycées agricoles qui enseignent notamment dans les filières de produire l'alimentation. Et donc, il y a tout à fait déjà des initiatives pour que les lycéens qui sont dans les Alpes rendent visite à leurs collègues qui sont sur le littoral et vice-versa. Et chacun peut échanger les problématiques littorales et finalement constater que tout est lié, comme tu viens de le soulever. Donc finalement, je pense que c'est souligner la problématique commune, notamment via l'alimentation, que voilà, un déchet qui a été produit, jeté dans une rivière en montagne et qu'on retrouve dans l'estomac d'un poisson à la côte, c'est une question de santé publique qui relie les citoyens de ces territoires.
Julien ?
Pour compléter, dans ce sens-là, moi, ça me. En fait, j'ai envie de parler d'éducation sur les choses à faire. Et la première chose que j'ai envie de dire, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. On est de plus en plus à produire du plastique. Il y a d'autres déchets, mais là, on parle particulièrement du plastique. Et après, moi, à mon sens, c'est l'éducation de pas jeter, tout simplement. Tous les enfants ont déjà vu un adulte jeter un papier ou quelque chose par terre. Donc ça part de là. Je sais qu'il y a des projets, par exemple, avec des ados au niveau des Hautes-Alpes, où justement ils suivent des cours d'eau pour bien se rendre compte et visualiser que c'est tout au long d'un cours d'eau qu'on retrouve des déchets. Ce n'est pas que Marseille qui est sale, c'est à beaucoup d'endroits. Et voilà. Et pour illustrer, juste par vous parler de Luvonne, du coup, avec la team Oxygène, mais avec, je vois qu'il y a Merveille qui est là aussi. C'est un spot où on est allé plus d'une fois ramasser des déchets là-bas. Et c'est vrai que c'est un carnage, quoi. Sous l'eau, on a vraiment la sensation qu'il y a des couches de déchets. Et que dès qu'on en prend un, en fait, on ne voit plus les autres parce qu'en même temps, c'est vaseux. Il y a vraiment une accumulation de plein de choses à cet endroit. On trouve des pneus de scooter. Enfin, c'est les dernières choses qui me viennent en tête. Donc c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte à quel point les fonds peuvent être atteints par ce qui se passe sur Terre. Il y a 80% des déchets qui viennent de la Terre. Et du coup, c'est pas anodin, quoi. C'est pas que des plaisanciers ou que des plagistes qui polluent la mer.
Oui, c'est vrai. Et donc moi, je vais aussi revenir sur le fait qu'on est dans un événement One Health quand même, où on est censé parler de la santé globale. Et la pollution plastique, on pourrait se dire les déchets plastiques sont en mer, c'est pas très grave et ça nous impacte pas. Mais est-ce qu'on peut avoir un petit point de vue sur quel est l'impact sur la santé ? Alors on va parler de la santé globale justement, santé de la nature, des écosystèmes, des animaux ou des humains. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de comment ça nous impacte à l'échelle de notre santé ?
Je te laisserai compléter. Donc nous, on est aussi un peu une plateforme scientifique à bord du bateau. On a eu l'occasion d'accueillir des scientifiques qui étudient les impacts de la pollution plastique sur la santé. Et notamment, dans l'océan Indien, on a pu accueillir une mission qui a étudié ce que véhiculent ces déchets flottants, ces déchets dérivants, même à l'échelle du microplastique. Et en fait, c'est vrai que c'est un peu une bombe à retardement. On ne s'en rend pas forcément trop compte, mais les déchets plastiques se recouvrent d'un biofilm qui, lui, va véhiculer tout un tas de trucs pas super top, et ce, sur des milliers de kilomètres. Notamment, on avait l'exemple de Madagascar, où il y a d'énormes épidémies de leptospirose, qui est une maladie de peau assez grave. Et en fait, les chercheurs qu'on a accueillis à bord du bateau étudient l'implantation de cette leptospirose sur les déchets plastiques qui se retrouvent échoués sur les plages, avec les enfants qui jouent dedans, etc. Donc, mais c'est le second rebond de la pollution plastique. La pollution plastique, c'est un polymère avec des polluants, des additifs d'une part, mais de plus c'est un radeau qui va dériver d'un pays à l'autre éventuellement et trimballer des trucs nocifs, quoi. Donc des bactéries, des pathogènes, des espèces invasives qui vont arriver dans des eaux plus chaudes ou avec un ensoleillement différent et d'un coup se développer à fond, quoi. Donc c'est pour ça que nous, vraiment, notre message, c'est agissons
à terre avant que ça commence à circuler, avant que ça commence à se dépendre, et limitons au maximum le flux de déchets qui atteint l'océan, et pour ça avec des solutions très concrètes et accessibles aux communautés locales qu'on a pu croiser.
Oui, simplement pour donner d'autres exemples, c'est vrai que notamment la fragmentation des plastiques et la production de microplastiques, par exemple, on va les retrouver dans les estomacs des jeunes individus de poissons qui habituellement se nourrissent de particules en suspension, de plancton dans l'eau. Et ben, en fait, imaginez voilà, un individu qui se retrouve avec son contenu stomacal remplacé par quelque chose d'indigeste. Ça va bien sûr provoquer une perte de croissance, une perte de survie. Et donc là encore, en termes très, d'un point de vue même très égoïste, hein, si on veut demain manger du poisson, effectivement, on aura une ressource qui sera moins bien renouvelée si ces espèces ont du mal à grandir, à se reproduire à cause de ce genre d'impact-là. Et effectivement, là encore, on touche à la typologie du déchet à son origine, c'est que beaucoup de plastiques qui sont produits alors qu'au fond, on pourrait trouver des solutions pour s'en passer, résultent en cette micro-fragmentation en particules très petites qui sont finalement autant impactantes que les gros déchets très visibles qui auront d'autres types d'impact. Et donc là encore, oui, à la source, couper le robinet en fait, de cette production, puisqu'on a plein de solutions alternatives en ayant des Tupperware en inox plutôt qu'en plastique ou des sachets déchirables.
Ouais, justement, pour aller plus loin et pour traiter ce problème, est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'écosystème marseillais des acteurs qui justement agissent contre la pollution plastique ? Est-ce qu'on peut faire un petit peu un dézoom et savoir un petit peu quelle est la filière qu'on a en local ? Pour voir un petit peu de où ça part et jusqu'où ça va. Sûrement qu'il y en a plein dans la salle, j'imagine.
Ouais. Je vous allez me corriger, je vais peut-être écorcher leur nom, j'ai honte, je ne sais plus, c'est l'association Termer, il me semble. J'inverse à chaque fois. Merter, merci. Voilà, une fois sur deux, j'inverse. Désolé. Alors, leur travail, justement, il sera de faire du lobbying pour faire des collectes de déchets dans l'objectif de quantifier la source pour ensuite aller taper à la porte des producteurs. Donc c'est très important de pouvoir, à l'issue d'une collecte sur la plage ou sur un autre site, quantifier la typologie des déchets, enfin caractériser quel type de déchets on a et quelle quantité on a, tel type de déchets, il y a telle tonne, etc., au mètre carré, et de pouvoir y compris remonter jusqu'aux marques concernées des producteurs, et donc les industriels qui sont derrière, pour pouvoir ensuite aller leur montrer les chiffres et les encourager à changer leurs pratiques de fabrication ou de retraitement, en tout cas.
Et donc, oui, pour revenir aussi à Plastic Odyssey, est-ce que vous avez vu à travers le monde des écosystèmes un peu similaires à ce qu'on retrouve ici ? Est-ce qu'il y en a qui sont mieux construits ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus actifs ?
Mieux, je n'oserais pas. Non, mais en tout cas, oui, c'est sûr que l'action, elle se fait forcément de manière collective et en écosystème. Donc, effectivement, c'est un bel exemple qui est illustré ici. Et là où on a vu des solutions vraiment se mettre en place, c'était forcément en fédérant différents acteurs du territoire, quoi. Des exemples, on en a vu plein. Hein, ça a été notre mission pendant 3 ans et demi. Donc on en a documenté plus de 200 à travers le monde. Mais quelques exemples, on peut citer sur la partie réduction. À l'île Maurice, par exemple, il y a toute une économie circulaire qui s'est développée pour aider les agriculteurs à retirer les déchets de leur mode de fonctionnement en récupérant des troncs de bananiers, en les broyant, en faisant des petits godets de semis qui sont ensuite réutilisés et qui font des compléments de revenus. En Inde, on a un écosystème complet qui s'est fédérés entre les pêcheurs donc de communautés plutôt défavorisées qui ramassent énormément de déchets plastiques dans leur filet, qui vont troquer ces déchets plastiques contre des tests de vision, donc pour essayer de détecter des problèmes de vision, en partenariat avec une association qui fait des montures à moins de dollars pour distribuer des lunettes de vue à ces communautés qui sont très défavorisées. Donc tous ces cette mise en mouvement un peu globale et collective où chacun ramène sa compétence, son expertise, mais dans un objectif de, bah, d'apporter des solutions très concrètes pour une partie de la population. On en a vu pas mal, et c'est ça qui est porteur d'espoir. C'est ça qui aujourd'hui nous anime. Des solutions, quand on en cherche, on en trouve. Elles sont peut-être peu connues pour l'instant, et toute notre mission, c'est d'essayer de les mettre en avant, quoi, de les mettre en valeur.
Et donc justement, moi je vais revenir sur le titre un peu de cette soirée, donc c'est agir face à la pollution plastique. Donc si moi je suis un citoyen et la pollution plastique ça m'énerve, comment est-ce que j'agis, comment est-ce que je m'engage, je contacte qui, et surtout quelles sont les missions un peu de bénévolat qu'on va me proposer? Peut-être qu'on peut commencer par Team Oxygène sur ce sujet.
Ça marche encore? Oui, ça marche. Oui, du coup, alors nous, la Team Oxygène, pour pouvoir participer à... En fait, nous, on organise une fois par an, Léa l'a dit, un ramassage durant une semaine. Ensuite, on ramasse à chaque sortie et on caractérise comme la plupart des associations sur Marseille. Et du coup, la caractérisation, juste, j'ajouterais deux trucs. On a aussi la possibilité d'adopter un spot. Donc, on sait qu'il y a des déchets. Et du coup, quand on adopte un spot, on s'engage à y aller plusieurs fois dans l'année. Et ce qui permet aussi de faire une étude par rapport à la météo, puisqu'on caractérise le déchet qu'on trouve, mais on peut remplir aussi des conditions météo à ce moment-là. Suivant la date, on peut savoir aussi si c'est une période touristique ou pas. Et la deuxième chose que je voulais ajouter par rapport à Mer Terre, oui, c'est que les données peuvent être aussi utilisées pour les industriels, mais directement pour des plaidoyers, pour inciter à faire voter une loi ou ce genre de choses. Donc nous, en tant que ramasseurs de déchets, c'est quand même de se dire qu'on ne fait pas que ramasser des déchets, mais qu'on agit aussi en se disant qu'il y en aura peut-être moins à terme. C'est important. Du coup, nous, à la Team Oxygène, pour participer à nos ramassages, comme on est à une asso d'apnée avec un niveau minimum, ce n'est pas forcément vers nous qu'il faut se tourner pour le bénévolat. Encore qu'on peut avoir besoin de coups de main à terre. Mais après, sur Marseille, vous avez un déchet par jour. Vous avez Merveille, il y a Clean My Calanque. Après, il y a des associations qui, pareil, à la base, ne sont pas forcément là pour... ramasser des déchets, mais qui participent à tout cet engagement, qui sont, je pense, à Bout de Mer, qui, eux, ont des barquettes qui viennent nous soutenir quand nous, on est dans l'eau. Je pense à la Team Ava, au Vallon des Offres, qui, eux, ont des kayaks, qui, là, pareil, viennent nous soutenir quand on est dans l'eau. Parce que quand on ramasse dans l'eau, au bout d'un moment, on a des filets où, en fonction de la taille des déchets, on pose ça directement sur les bateaux. Après, ça, c'est donc des assos locales. Après, au niveau national, il y a Wings of the Ocean, il y a Surfrider, il y a Zero Waste, il y en a pas mal. Hein. Et si vous voulez voir beaucoup de monde engagé, vous pouvez venir samedi au J4. On organise justement un ramassage. Donc n'hésitez pas, il y aura des gants, des pinces, des sacs pour vous au pied du bateau.
Et samedi, du coup, il y a aussi un village des associations. Donc, il y aura des stands où chacune des associations qui s'est mobilisée sur cette opération pourra présenter ses activités et expliquer comment participer plus long terme, j'imagine, à vos côtés.
Oui, n'hésitez pas.
Oui, et en même temps, vu qu'on est sur les annonces, j'en profite pour annoncer que le 25 octobre, il y a Mer Terre qui organise un grand rassemblement calanque propre. Donc chacun peut se mobiliser un des sites. Il y a une cartographie qui est très bien faite avec tous les sites de ramassage en fait, des déchets. Donc si toute la salle peut se mobiliser, même 10 minutes de ramassage de déchets sur les plages et sur notre littoral, ce serait génial.
C'est en avril.
Oui, 25 avril.
Oui. J'avais dit octobre. Mais
il y aura peut-être octobre aussi, on ne sait pas. Je remets ça ici. Voilà, donc on va arriver...
Oui, j'ai cité Merveille aussi. Bref.
Est-ce qu'on en a oublié d'autres? Il y en a qui veulent intervenir? Non, on va parler de tout le monde. Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus? Non. Alors, on arrive à la fin de cette table ronde. Donc, il nous reste 5-7 minutes. Allez, généreusement. Donc moi, je vais vous demander de vous projeter en 2050. Imaginez deux scénarios. Le scénario où on reste comme on est actuellement et on n'en fait pas plus, parce qu'on n'a pas besoin. Ou alors vraiment, on s'est tous bougé les fesses, on s'est mis à faire des choses contre la pollution plastique. Et donc très rapidement, on va faire un petit tour de vous tous et vous me dites qu'est-ce qui s'est passé sur Terre en 2050 et à quoi ressemble la société, alors marseillaise ou le monde carrément, hein, si vous voulez. Allez, je vous laisse commencer. Ouais, je te laisse commencer, t'as le micro.
Ouais, j'ai le micro. Si on fait rien, ça sera forcément. Il ne faut pas dire que c'était mieux avant, mais en même temps, il faudra arrêter de faire pire après. Du coup, voilà, on ne pourra que dire que c'était mieux avant. Et s'il y a quelque chose à faire, pour moi, c'est de s'efforcer à limiter la production des déchets et du coup, revoir nos modes de consommation. Le vrac, par exemple, voilà, dans emballages réutilisables, on sait que ça existe, on sait que ça marche. C'est pas si compliqué que ça. Ça change pas forcément les produits qu'on consomme. Enfin, il y a tellement de choses qui pourraient être évidentes à mettre que il y a quand même moyen qu'on soit mieux en 2050, je pense.
Morgane. Anouk.
En rebondissant sur cette vision-là, j'aurais envie de dire que dans le meilleur des mondes, en 2050, on applique effectivement un concept de pollueur-payeur, ou du moins pollueur-réparateur, ou acteur de la filière globale, pour que finalement, d'eux-mêmes, les process industriels de production à l'origine se tarissent d'eux-mêmes, puisque pour que ce soit finalement efficace, il faut que l'incitation elle vienne à la source, et donc que ce soit le mode de consommation qui change.
Oui, je plus sois dans ton sens, parce que ce que je voulais dire, enfin, je suis d'accord avec toi, je remets pas en question, mais ce que, enfin, c'est toujours un peu la réponse facile de remettre la responsabilité sur les individus, sur les citoyens. Ce que je dis là n'engage que moi. Et effectivement, il y a peut-être des façons de faire à changer, des modes de consommation à changer, mais en fait, ça doit venir, je pense, d'en haut et des modes de production. Et le principe du pollueur-payeur, il faut le développer. Mais aujourd'hui, dans le fonctionnement des responsabilités élargies du producteur, ces filières-là n'incitent pas non plus à la réduction des déchets. Enfin, dans les agréments des éco-organismes, etc., c'est quand même des structures qui se font de l'argent avec ces entreprises-là, même si elles sont censées être à but non lucratif. Donc, il y a aussi au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, je pense, à revoir la manière dont ces entreprises sont. Revoir ces agréments-là, revoir le mode de financement de ces entreprises pour qu'on puisse vraiment agir sur la réduction des déchets et pas seulement sur une meilleure valorisation, parce qu'en fait, ça, on produit quand même des pollutions, même en valorisant, et même si on n'enfouit pas, ça, on génère quand même de la pollution. Donc, ne pas tout remettre sur la responsabilité individuelle, à mon sens.
Léa ?
Oui, ça pourrait aller dans le même sens que vous. Enfin, c'est vraiment pour dire que en fait, c'est le monde parfait, c'est un monde où on arrête de produire du plastique, en fait, où il n'y a plus de lobby, parce que c'est des énormes lobbies, en fait, les industries qui produisent du plastique. Il y a plein de pays. Enfin, moi, je me déplace régulièrement en Afrique de l'Ouest pour mon travail. Il y a 10 ans, il n'y avait personne qui utilisait du plastique, et maintenant, je vais acheter une bouteille d'eau, on me donne un sac en plastique, parce qu'on a créé des besoins, et les gens n'imaginent plus, en fait, s'en passer, alors qu'avant, on trouvait plein d'autres solutions. Donc, en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est du lobby, et c'est pas du tout, enfin, voilà, une nécessité. Voilà, enfin, c'est surtout ça qui me choque.
Et moi, je voulais rebondir sur vos remarques en parlant de ce qu'on appelle le triangle de l'inaction. En gros, on parle souvent de ce triangle de l'inaction pour illustrer le fait que chacun se renvoie la balle, et il y a l'individu, il y a l'industriel, il y a le politique, et en fait, c'est jamais la faute de personne, c'est toujours la faute de l'autre. Alors qu'en fait, sur ces trois axes-là,
il est urgent, essentiel et nécessaire d'agir. L'individu à son échelle dans un changement de comportement qui forcément va derrière, s'il se fait à grande échelle et s'il atteint les masses, va faire bouger le monde industriel et le monde politique. Le politique pour évidemment entendre ces signaux et mettre en place des législations et qui sont un acte nécessaire pour que les choses changent. Malheureusement, on voit quand même beaucoup d'endroits où le sac plastique est interdit depuis 2017, mais on en trouve à tous les coins de rue, dans tous les magasins, dans tous les marchés. Je ne parle pas forcément en France, mais en tout cas, on a vu ça à pas mal d'endroits, parce que derrière deux choses, la loi n'est pas forcément, elle peut être votée, mais pas forcément appliquée. Et deuxième chose, l'industriel n'est pas forcément... ne s'est pas forcément organisé, n'a pas forcément mis en place les trucs derrière pour apporter une alternative, pour apporter des solutions concrètes. Donc en gros, je pense qu'il est super important de ne pas pointer du doigt l'individu comme étant la personne qui, pour 2050, a la responsabilité sur ses épaules de créer un monde meilleur, mais parler de ce triangle d'action pour sortir de l'inaction et y aller tous ensemble. Et on espère que 2050 ressemblera à quelque chose de beaucoup plus déplastifié, à avoir un futur beaucoup plus positif que celui qu'on pourrait imaginer si on ne change rien. Et nous, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer, notamment aux jeunes générations. À chaque escale, on a plus de 1000 enfants qui viennent visiter le bateau. Et on leur explique qu'en fait, ils peuvent agir, ils doivent agir. Et qu'ils ont leur petite manière aussi de mener leur combat, mais de manière très positive et orientée vers des solutions concrètes. Donc, voilà.
Et tout ça, ça fait rêver et c'est pour ça qu'on s'engage en tout cas. Donc on arrive au terme de cette table ronde. Vous pouvez m'accompagner pour les remercier vraiment pour leurs interventions. C'est super. Et maintenant, on doit avoir 20-25 minutes d'échange avec eux, si vous avez des questions à leur poser. Ouais, ça lève déjà la main là-bas. Je te laisse, Marin, courir.
Bonsoir. Je voulais simplement savoir si vous avez déjà entendu parler de cette société qui met des filets un peu partout sur la côte, qui s'appelle Polustock, je crois, pour justement éviter que les déchets... arrive dans la mer pour limiter, donc ça se fait un peu sur la... Et aussi, je voulais savoir, on n'a pas du tout parlé du programme de les ports propres. Quelles sont les différentes actions qui sont faites justement au niveau des ports pour éviter justement la pollution de l'eau?
Est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole?
Les ports sont une compétence métropolitaine. Non, je rigole. Non, je rigole pas. C'est vraiment une compétence métropolitaine. Mais du coup, tout ça pour dire que côté ville de Marseille, je peux pas m'engager, je ne peux pas spécialement répondre à cette question sur ce qui est fait au niveau des ports. Je suis pas trop au courant.
Est-ce qu'il y a des agents de la métropole?
Et les filets, oui, on connaît, mais la plage de Corbière. En revanche, le port de l'Estaque, non. Le port de l'Estac, non, c'est la métropole. Mais la plage de Corbière, effectivement, la ville de Marseille l'entretient.
Question suivante.
Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, on a parlé de l'importance de limiter la prolifération du plastique et donc la production du plastique. Et l'année dernière, il y a eu des négociations internationales pour limiter le plastique. Il y avait des négociations pour un traité plastique. Et donc, j'ai pas entendu si vous faisiez du plaidoyer international, mais ce serait intéressant peut-être de voir comment vous vous mobilisez là-dessus. Les négociations ont échoué, mais juste pour dire que la ville de Marseille a rejoint une coalition demandant aux États membres de se bouger pour justement arriver à un texte ambitieux pour limiter la prolifération du plastique.
Est-ce que vous voulez réagir, Mathieu?
Non, alors je n'ai pas forcément d'informations sur l'appel de la ville de Marseille pour rejoindre cette coalition. En revanche, c'est sûr que le traité plastique, il a échoué, qu'on voit aussi du coup la difficulté de mettre en place un mouvement à l'échelle internationale sur des sujets comme celui-ci. L'approche du coup qu'on a développée chez Plastic Odyssey, c'est... Et plutôt en fait de terrain, donc on est plutôt sur une approche bottom-up en se disant qu'il ne faut pas attendre après des textes de loi à l'échelle internationale qui sont parfois
des grands brassages de vent et qui ne déboucheront peut-être jamais ou en tout cas sur quelque chose de beaucoup moins ambitieux qu'on l'aimerait. Et donc, du coup, aller développer des solutions plus décentralisées, plus locales, qui répondent à des besoins de communautés de terrain et qui peuvent être déployées en quelques mois et pas attendre des années pour que ça se passe. Mais en revanche, tout à l'heure, je parlais du triangle de l'inaction. Pour moi, c'est clair qu'il faut qu'il y ait un mouvement qui se mette à l'échelle globale. Mais malheureusement, les traités internationaux sont extrêmement décevants. C'est pas complètement fini. Hein. La discussion est toujours en cours et ouverte. Des groupements se montent pour essayer de déboucher sur quelque chose, mais c'est très très lent. Quoi.
Bonsoir. L'un d'entre vous a dit qu'il y avait 10% de déchets plastiques qui étaient recyclés. Est-ce que c'est un chiffre marseillais, français, mondial? Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui bloque en fait le développement du recyclage?
Alors c'est Hugo qui a cité ce chiffre au début, donc je pense il parlait pas de Marseille en particulier, parce que à Marseille alors on est en dessous des objectifs fixés par la loi AGEC. Je crois que c'est 65% de déchets recyclés en 2025, il me semble. On n'est pas à 65% à Marseille, on est en dessous. Je ne sais plus exactement quel est le chiffre. Non, tu ne l'as pas en tête ? Non. Bon, on est en dessous de 65%. Les freins au recyclage, je peux parler de la situation marseillaise. C'est sur les 7 premiers arrondissements de la ville. Enfin, déjà, il y a des freins au tri, parce que le préalable au recyclage, c'est évidemment le tri. Et donc sur les 7 premiers arrondissements de la ville de Marseille, on n'a pas de locaux poubelles dans les immeubles, dans les habitations. Tous les déchets sont gérés sur l'espace public. Donc on a nos gros bacs noirs d'ordures ménagères dans les rues, nos conteneurs pour faire le tri dans les rues. Donc au-delà de participer d'un sentiment général de malpropreté et de l'envol de déchets et de toutes les nuisances associées que l'on vit toutes et tous au quotidien, en fait c'est aussi des contraintes pour le geste de tri. Devoir faire parfois 200 mètres pour aller trier, ne pas savoir si le conteneur va être plein ou pas, ou s'il va y avoir énormément de dépôts autour, etc. Ça n'incite pas particulièrement. Et il y a aussi une légende urbaine très très ancrée à Marseille et qui, je peux vous le dire, est entièrement fausse, c'est que tous les déchets sont mélangés une fois qu'on les a triés. Donc je vous le dis et répétez-le bien autour de vous, c'est faux. Voilà, les déchets que vous triez sont valorisés derrière. Enfin, en fait, valorisés. Ils sont envoyés dans une usine de recyclage. Voilà, tous les déchets triés sont envoyés dans ces usines et ensuite, ils ont vocation effectivement à être valorisés.
Après, je suis loin d'être spécialiste de la question du plastique, mais même un plastique qui va être correctement trié et recyclé, il me semble qu'il a un nombre de recyclages limité, c'est 2 ou 3, je crois. Et que là, récemment, je lisais un article où on nous expliquait que de produire du plastique recyclé est plus polluant que du plastique non recyclé. De base. Du coup, la vraie question du plastique, c'est qu'à un moment, il faut qu'on arrive réellement. Et grâce à la mobilisation des 3 sommets du triangle, qu'on arrive à faire, qu'on diminue cette production-là, quoi. Voilà. Ça me fait penser, pardon. En apnée, il y a une vidéo de Julie Gauthier, une athlète apnéiste, qui est très poétique, où en fait on la voit danser sous l'eau avec un monstre de plastique qui, au départ, c'est notre pote, quoi. Quand le plastique est arrivé, ça a permis beaucoup d'évolutions technologiques, etc. Et de fil en aiguille, vous voyez que le plastique commence à prendre de plus en plus de place et cherche à engloutir l'humain qui jouait avec lui au départ. Quoi.
Une dernière intervention, puis on passe à la prochaine question.
J'ai juste un petit point de précision, c'est qu'il y a une association qui s'appelle Basta, qui a fait une étude très pragmatique, factuelle et quantitative sur la propreté à Marseille, en donnant des axes d'amélioration, et que suite à cette étude, tous les candidats et candidates à la mairie de Marseille ont signé une charte de propreté. Donc effectivement, par rapport à ce que vous disiez, il y a aussi, entre guillemets, contrairement aux idées reçues, les Marseillais et les Marseillaises sont pas propres, c'est pas vrai. C'est qu'on manque énormément de bacs et de containers et compagnie. Enfin bon, il y a tout un tas d'axes d'amélioration qui ont été identifiés et qui normalement devraient être mis en place.
Vas-y.
Et moi, je voulais ajouter un dernier point par rapport au chiffre du 9 ou 10% qui, à mon avis, est le chiffre à l'échelle mondiale, qui est de prendre conscience et de réaliser de la chance qu'on a d'avoir un système de recyclage et de gestion des déchets. Enfin, en France, c'est quand même un truc qui n'existe pas dans énormément de coins dans le monde. Et en fait, il faut prendre conscience que nous, les pays du Nord, produisons et émettons énormément plus de déchets, 10 fois plus de déchets que les pays du Sud. Mais par contre, on les voit carrément moins parce qu'on a la chance d'avoir ce système de gestion des déchets quand même qui nous permet de nous dédouaner en fait et de nous déresponsabiliser d'une certaine manière de nos consommations individuelles. Et je rejoins du coup le point de Team Oxygène de dire le plastique, il faut vraiment autant qu'on peut s'en passer. On entend de plus en plus dans les médias des solutions miracles de dégradation de polymères, de plastique à travers des bactéries, etc., des trucs, des champignons. Enfin, et c'est très attrayant. Effectivement, on se dit, chouette, il y a un chercheur au MIT qui a trouvé la solution. On peut continuer comme on fait et tout va bien se passer. La grosse difficulté dans le recyclage et la gestion des déchets, c'est l'argent. En fait, c'est que dans 95% du monde, il n'y a pas d'argent pour gérer les déchets. Donc, il n'y a pas d'argent pour développer des laboratoires avec des bactéries, des champignons qui vont dégrader les déchets. Il faut trouver des solutions accessibles qui répondent aux enjeux des pays en voie de développement, notamment, où il n'y a pas d'argent public pour ça. Et c'est ça la grosse difficulté. Ce n'est pas la technologie, c'est le modèle économique de financement de la gestion des déchets qui pose problème dans la plupart des endroits dans le monde. D'où un chiffre finalement très, très réduit de valorisation et de recyclage parce que il n'y a pas d'argent pour ça. Nous, en France, le recyclage est subventionné et c'est une chance de bénéficier de ça.
Je fais juste un petit aparté. On me dit de donner de la force à l'association Zero Waste Marseille qui organise une projection du documentaire Homo Plasticus le 11 avril 2026 à la base. Donc, je répète, le 11 avril 2026. Donc, si vous voulez voir ce documentaire sur les déchets plastiques, ça se déroule de 17h30 à 20h30. Voilà. Tu voulais rebondir, ouais.
Non, je voulais juste ajouter qu'il y a pas mal de déchets en mer auxquels on ne pense pas, mais c'est aussi beaucoup lié au rejet des eaux usées, enfin tout ce qui est dans les machines à laver, etc. En fait, c'est bourré de plastique, les vêtements, polyester, tout ça. Enfin, en fait, je pense qu'il faut mettre du coton, mais en fait, dès qu'on fait une machine, ben, il y a plein de microparticules qui partent en mer et ça, on le recycle pas et ça pollue vraiment les océans et c'est ça aussi qui ingère les poissons. Donc c'est, enfin voilà, c'est pas tout à fait en lien avec le recyclage, mais c'est important, je pense, de le dire.
Ouais, on peut prendre la prochaine question.
Oui, bonjour. Je pense que ce n'est pas le plastique en lui-même qui pose problème, parce que c'est quand même un matériau qui a permis de nombreuses avancées technologiques par ses propriétés. Hein. Je crois que c'est vraiment l'utilisation qu'on en fait, c'est-à-dire le plastique jetable, pour un oui, pour un non. Mais est-ce que le plastique en lui-même pose vraiment un problème? Est-ce que vous êtes sûr, enfin sûr, est-ce qu'on peut penser que vraiment en 2050, on aura zéro plastique? Je crois qu'on aura toujours besoin de plastique pour certains usages, des usages durables. Mais de dire zéro plastique, je ne pense pas qu'on puisse se passer totalement de plastique. On en a, ne serait-ce que dans cette salle, je pense qu'il y en a à revendre, hein, du plastique. Mais c'est peut-être l'usage temporaire qu'on en fait qu'il faut revoir, c'est-à-dire ce que vous avez dit les uns les autres, le mode de consommation, l'utilisation qu'on va en faire. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut... à quoi il faut réfléchir et ne pas dire zéro plastique. Ça, pour moi, je pense que c'est un vœu inatteignable.
C'est juste... moi, en tant qu'apnéiste, je serais assez mal placé pour dire ne plus utiliser de plastique. Quand je vais plonger, je suis englobé dans du plastique. J'en ai au pied, j'en ai sur le visage, j'en ai dans la bouche, avec le tuba. Du coup... Mais après, c'est, je pense que je vous rejoins aujourd'hui... ça paraît compliqué de faire sans plastique, mais c'est l'usage unique qu'il faut, c'est l'emballage, c'est ce genre de choses. Et peut-être revoir la composition aussi des plastiques. Et là, attention aux clichés, mais je sais qu'il existe des plastiques de chanvre. Et du coup, pourquoi pas aussi avoir des solutions peut-être plus écologiques, entre guillemets. Et ça, je ne suis pas suffisamment calé pour le dire, mais en tout cas, y réfléchir, c'est surtout d'arrêter de répéter le même modèle et de l'amplifier même, je pense.
Oui, pour aller dans le même sens, j'aurais envie de dire que définissons quels sont nos besoins fondamentaux et donc quels sont les objets fondamentalement nécessaires, voilà, pour les usages médicaux. Et au contraire, identifions les types de produits plastiques qui sont finalement de l'ordre accessoire et qui pourraient être totalement réduits. Voilà, et que finalement, les seuls que ça va gêner, c'est la poignée qui font du bénéfice sur la production d'objets dont on n'a en réalité pas besoin et qui sont un pur produit de la société de consommation, on va dire, futile. Et donc, c'est l'identification des besoins réels et ne produire que ce dont on a fondamentalement besoin. Parce que je reviens sur les plastiques, les emballages à usage unique, qui sont probablement ceux qui génèrent, en termes d'impact, une grande quantité de part de nos impacts qui nous préoccupent, en se fragmentant à ce point-là, et qui vont également relarguer dans l'eau des composants nocifs.
Merci. Ouais. Est-ce qu'on avait une autre question? J'en avais repéré. Ouais. Non, je vais donner mon micro. Attends, juste là.
Moi, c'est plus une remarque, mais c'est que je trouve qu'en fait, pour parler de plastique, il faut parler de santé, parce que l'environnement, ça ne parle pas à tout le monde, ce n'est pas la priorité de tout le monde. Là, je pense que là, on est des personnes qui sont sensibilisées là-dedans, mais les trois quarts de la société, dont les personnes en situation de précarité, ce n'est pas leur problème, en fait. Et on peut les comprendre parce qu'en fait, elles ont d'autres priorités dans la tête. Et à la fois, mais c'est compliqué de... Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que vous parliez de votre triangle. Parce que si on parle que d'individus, il y en a qui vont pouvoir réfléchir à d'autres manières de fonctionner et qui seront adeptes de ces idées parce qu'elles ne mettront pas le capitalisme en haut de leur top, quoi. Après, mais ça concerne le politique aussi, parce qu'effectivement, pour que ça soit global, et forcément les industriels, pour que ça ait un impact. Mais bon, après, on vit dans une société économique qui fait qu'on a un peu rien à foutre, quoi.
Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en avais vu apparaître tout à l'heure. Ah oui, tout au fond. OK, ça marche.
Bonsoir, merci à vous de vos interventions et surtout merci de la diversité des structures, des associations, de la collectivité qui est là. On voit quand même qu'il y a des acteurs qui manquent autour de cette table, les industriels. Et vous l'avez bien dit, il y a ce triangle et vous avez un peu parlé de la taxe pollueur-payeur et tout ça. Qu'est-ce qui ferait, pour la prochaine table ronde qui peut-être se passera à Marseille, qui pourrait être à vos côtés, qui représenterait le secteur privé, ou qui peut accompagner ce secteur privé au-delà du lobbying, puisque même si le lobbying c'est super bien, on peut pas juste dire que tout le monde est gentil, tout le monde est méchant, mais ils ont peut-être des contraintes économiques ou autres. Voilà, quel est le levier qui ferait que du coup les industriels, que ce soit le textile, puisque si demain le plastique était interdit, on serait à poil, qu'est-ce qui ferait qu'ils viendraient à vos côtés et qu'aujourd'hui, ils ne le font pas? Pas juste le côté « on veut faire du fric », il y a quand même d'autres entreprises qui ont d'autres contraintes.
Eh ben, pour la prochaine table ronde, on peut inviter les éco-organismes, donc c'est les structures qui justement... récupère les éco-contributions, les éco-taxes d'émetteurs sur le marché de produits qui deviendront des déchets, et inviter éventuellement des fédérations, des syndicats professionnels concernés, des filières concernées. Enfin, voilà, effectivement, mettre ces acteurs autour de la table, accompagner des éco-organismes, ça peut être intéressant. Après, on peut les inviter.
Yes. Juste un petit commentaire aussi, en fait. Moi, j'étais à l'analyse qu'a proposé Mère Terre, en fait, sur la collecte des déchets qui avait été faite par rapport aux zones et tout ça. Ils ont fait un bilan de je ne sais plus combien d'années, enfin bon, bref. Et on avait Haribo, qui était là aujourd'hui, et, enfin, pendant la transmission de toutes ces données. Et à savoir que Haribo, c'est sympa parce que maintenant, ils font des bonbons. En fait, par bonbon, il y a un plastique. Et parce que c'est vachement plus vendeur. Et donc, elle était pleine de bonne volonté en disant oui, mais en fait, on réalise que... Parce que c'était un des premiers pollueurs de Marseille en termes de plastique hein, qu'on trouve. Hein, faut le dire quand même. Et en fait, dans l'analyse. Et du coup, elle nous disait ben, oui, en fait, on essaie de faire des choses. On est dans une dynamique de vraiment progresser, de faire... Voilà. Donc le discours était super intéressant, mais sauf que en fait à la fin on m'a dit qu'elle avait fait la même chose 5 ans avant et que en fait ils s'en foutent. Donc il y a vraiment une envie de faire des choses, mais pas au point que le business va être perturbé en fait. Donc ben, les gens, c'est ça où on revient dans le triangle de la mort là, où il y a les gens qui se disent ben, moi je suis content d'acheter des bonbons à l'unité, eux parce qu'en même temps Haribo propose des bonbons à l'unité. Et en fait, on ne sait pas trop comment finit tout ça, quoi. Donc, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est parce que les gens ne doivent plus acheter les bonbons, est-ce que c'est parce que Haribo doit arrêter de les faire à l'unité, mais ça représente des quantités. Et ça, c'est bien sûr pour plein d'entreprises pareil, quoi. Donc, on ne sait pas trop exactement comment se sortir de là. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut quelqu'un qui tape sur les doigts aussi. Ce n'est pas possible de laisser faire ça, je ne sais pas. Voilà.
Après, moi, juste, je voulais ajouter que. Enfin, si on commence à inviter Coca-Cola, Haribo ou des gens comme ça, j'aurais juste peur qu'ils viennent pour faire un énorme coup de pub et un énorme coup de com. Genre, ouais, on fait partie de tous ces acteurs engagés pour l'écologie. Puis après, il ne se passe rien, quoi. Ouais. Bon, on avait une autre question par là-bas, j'ai vu.
Bonjour, la team Oxygène. Moi, j'ai une petite question. En fait, puisqu'on parle des acteurs en présence, mais notamment là, de l'industrie, pourquoi le réglementaire ? Pourquoi les acteurs de la réglementation en fait sont créent pas un forçage en fait. Alors en plus c'est pas mal parce qu'il y a des institutionnels qui sont ici peut-être qui vont nous aider.
Alors il y a des réseaux de collectivités territoriales sur les sujets déchets, eau, énergie qui s'organisent et qui via ce réseau ont des stratégies de plaidoyer pour faire remonter justement au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée des propositions de loi ou alors faire changer justement les cahiers des charges des éco-organismes, etc. C'est du travail de longue haleine de ces réseaux. C'est très compliqué de s'imposer parce qu'on l'a dit, il y a des lobbies qui sont très puissants. Il faut aussi du portage politique fort. Il y a beaucoup d'éléments qui font que c'est relativement compliqué de s'imposer et de faire du forçage réglementaire. Mais bon, il y a des stratégies qui existent, il faut continuer.
Et moi, j'ajouterais que, à titre individuel, le fait de participer à des événements autour de la thématique de la pollution plastique, de participer à des actions auprès des associations qui luttent contre ce genre de choses, le fait d'être présent ce soir, nombreux, d'avoir des mobilisations en fait citoyennes, fait que ce sujet prend de la place. Il doit en prendre de plus en plus, de plus en plus fort, et c'est comme ça que les mouvements sociaux, qu'on se fait entendre, et que derrière, le législatif se saisit du sujet, se dit que c'est peut-être le moment de mettre en place quelque chose, et effectivement, ça fera bouger aussi les industriels. Mais notre force à nous, c'est notre force en tant que citoyen, c'est de montrer que on s'en fout pas, que c'est un sujet important et qu'il faut qu'on est vigilant en tout cas à toutes les décisions qui seront prises autour de ce sujet-là. Je pense qu'en tout cas, c'est ce qu'on peut faire à notre échelle déjà en tant qu'individu.
Il nous reste 2 minutes, Adrien, même pas une minute. Tu peux vite.
Alors très vite. Moi, souvent, quand on me demande comment vont les océans, je fais exprès de répondre ils vont mieux. Parce que je donne toujours l'exemple de la qualité de l'eau en milieu littoral. Depuis les années 70, la qualité de l'eau en milieu littoral s'est largement améliorée grâce à notamment la directive cadre européenne sur l'eau, qui a imposé au niveau réglementaire des choses aux États, et donc c'est redescendu au niveau local pour mettre en place des actions concrètes d'amélioration de la qualité des eaux rejetées en mer. Alors là, en l'occurrence, ce sont les collectivités qui ont pris en charge la mise en œuvre des stations d'épuration, etc. Mais donc, c'est tombé par quelque chose au niveau européen. Donc, j'aurais envie de dire, le bulletin de vote à l'échelle européenne, c'est aussi un moyen d'action.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour ces échanges et merci d'avoir été présent à cette table ronde. Donc on va pouvoir clôturer notre petit plateau radio. Et maintenant, on va passer à la projection du film. J'aimerais inviter Alexandre peut-être pour venir nous parler un peu du film. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Est-il parti ? Il est parti. Est-ce que quelqu'un de Plastic Odyssey veut nous faire une petite introduction du film et de pourquoi on regarde ce film-là ? Et peut-être que je peux laisser les autres intervenants prendre leur place dans la salle. Et merci encore.
Non. Ouais, si c'est bon. Si c'est bon. Ouais, je vais pas être longue. Hein. C'est une introduction à ce film donc, qui s'appelle Mission Pacifique. C'est notre deuxième film documentaire qu'on a tourné pendant l'expédition et qu'on a tourné en février 2024. Donc principalement orienté sur une mission qu'on a appelée l'Impossible Cleanup sur l'île déserte d'Henderson. On nous a, depuis des années, on nous explique que cette île, qui est une des îles les plus polluées du monde de par sa position géographique au milieu de courants marins qui draguent un certain nombre de déchets, est impossible à nettoyer à cause de sa barrière de corail, à cause de plein de trucs. Et nous, on aime bien le système D. Quand on nous met des challenges et typiquement nous dire c'est impossible alors que cette île était sur notre route, ça nous a fait marrer de se pencher sur la question. Donc on a imaginé tout un tas de trucs assez farfelus pour essayer de la dépolluer. Et j'espère que ça va vous plaire. C'était il y a 2 ans, depuis le bateau, il a encore fait le tour du monde, traversé 3 océans jusqu'à revenir vers vous là il y a quelques jours pour boucler ce tour du monde. Mais voilà, on sera un certain nombre de personnes identifiables, comme tu l'as dit, avec nos t-shirts bleu marine. Et on reste à la fin de la projection du film. Si vous voulez discuter un peu de manière informelle de tout ça, on sera ravis de vous raconter l'envers du décor de ce film.